بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد. On s'est arrêté la fois dernière toujours à la bataille de Uhud. Et on est toujours au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre le départ avec son armée de Médine pour la montagne de Uhud. Puisque, comme on le sait, si elle se nomme la bataille de Uhud, c'est parce qu'elle aura lieu à Uhud. On a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam organise l'armée en la divisant en trois bataillons. Le bataillon des Muhajirun, les compagnons de Mecca qui ont fait la hijra. Le bataillon de l'Aus parmi les Ansar et le bataillon de l'Khazraj parmi les Ansar. Puisque les Ansar, c'est les compagnons de Médine, et ils ont deux tribus principales, les Aus et les Khazraj. Et il a nommé à la tête de chacune des compagnons bien connus, à la tête de l'Muhajiroun, le Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, qui sera d'ailleurs le porte-étendard à la bataille de Uhud. Et il nomme à la tête de l'Aus, il nomme Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, et à la tête des Khazraj, il nomme le compagnon Al-Hubab ibn al-Mundhir radiyallahu anhu. On a expliqué également le déroulement de la dernière journée à Médine avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenne le départ pour Uhud. On a expliqué que c'était le vendredi, puisque la bataille va se dérouler le samedi, dans la journée du samedi. Donc, dans la journée du vendredi, le professeur Sima a prié le Jumu'ah, la prière du vendredi. Donc, il a fait le prêche, il a fait la prière, comme d'habitude, sauf que, sans aucun doute, il doit y avoir un certain stress auprès des compagnons, auprès de toute la ville, puisqu'on sait que aux portes de Médine, il y a une armée de 3000 idolâtres qui viennent en découdre avec les musulmans et qu'ils s'apprêtent, eux, les musulmans, à partir. On sait aussi que ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière mortuaire d'un de ses compagnons, Malik ibn Amr, radiyallahu anhu. Tout comme on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de l'Asr à Médine et qu'il a constaté que les compagnons de ce qu'on appelle l'Awali, qui vivent un petit peu à l'extérieur de Médine sur les hauteurs, sont présents. Ils se sont préparés, puisque le point de départ, c'est le masjid Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui, en compagnie de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il l'aide à s'habiller, son habit de guerre, il lui met son turban. Il met deux armures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui donne son épée. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort, les compagnons, finalement, ils lui disent qu'ils regrettent de l'avoir incité à prendre la décision de sortir pour intercepter, pour aller se battre face à face avec les idolâtres. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait proposé deux choix, et il avait dit, les idolâtres arrivent, soit on ne leur permet pas de rentrer dans la ville ni d'assiéger la ville, on sort à leur rencontre, soit on les laisse venir, on défend la ville de l'intérieur. Et le professeur Hassan penchait plus pour cette deuxième option, c'est-à-dire qu'on reste à Médine. Et les compagnons, la plupart d'entre eux, ils ont plutôt préféré la première option qui est de sortir à leur rencontre. Et finalement, à ce moment-là, lorsque le prophète sallam met ses armures et qu'il sort, d'une certaine manière, ils sont gênés. Ils se disent, si le prophète sallam sort, c'est à cause de nous. Il y a le compagnon Usayd ibn Hudayr qui va leur dire, vous avez imposé au prophète sallam une décision qui n'était pas la sienne. Et quand ils vont dire au prophète sallam, nous n'avions pas à insister et à t'inciter à sortir de Médine alors que tu préférerais y rester. Donc, notre affaire ne fera que suivre ton affaire. C'est-à-dire, notre décision, finalement, c'est la tienne. Et là, le professeur, il n'est plus dans la consultation. La consultation, elle est terminée. Il avait consulté, il avait proposé deux options. Certes, il avait penché plus pour rester à Médine, mais à partir du moment où la majorité avait dit « sortons », il avait tranché, il a dit « alors sortons ». Et à ce moment-là, c'est comme revenir sur une décision alors que les ennemis sont aux portes de la ville. Il n'est plus temps d'être perturbé par des revirements de décision. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour faire bien comprendre et bien pour bien faire prendre conscience aux compagnons que lorsque la décision allait trancher, surtout dans ce genre de situation, on ne revient pas en arrière. Et il leur dit, « Ma kana li nabiyin »« Ma kana yambari li nabiyin » Il n'appartient pas à un prophète. Lorsqu'il a mis son armure, il s'est habillé, il s'est vêtu de son armure. Il ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de l'enlever jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal juge et tranche entre lui et ses ennemis. Ici, certains savants ont dit, il faut le prendre à la lettre. C'est-à-dire, c'est une règle qui concerne les prophètes. Le professeur Hassan a dit, il n'appartient pas à un prophète d'enlever son armure lorsqu'il l'a mis jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal juge entre lui et ses ennemis. Ils disent, il faut le prendre à la lettre, c'est-à-dire les prophètes, c'est quelque chose, c'est une règle chez eux. S'ils ont mis leurs habits de guerre, à ce moment-là, khalas, ils doivent aller jusqu'au bout. Et d'autres savants disent non. C'est pas quelque chose à prendre à la lettre, comme ça il faut comprendre que c'est une règle spécifique au prophète, non. C'est une façon de dire, c'est une métaphore, une image pour faire comprendre aux compagnons, lorsqu'on a pris une décision, on a pris le temps de la consultation, on a écouté les arguments de tout le monde, on avait expliqué, on a pris du temps nous à expliquer cette consultation et les arguments des uns et des autres. Donc le professeur Sim a pris le temps de consulter, a pris le temps d'écouter, et d'ailleurs, je vous rappelle, que le professeur Hassan a reçu la lettre de son oncle Abbas ibn Abd al-Muttalib pratiquement une semaine auparavant, le samedi d'avant, qu'il informe que les idolâtres arrivent. Il la reçoit le samedi. Et la bataille de Uhud, elle a lieu le samedi d'après. Ils sortent de Médine le vendredi soir. Ça veut dire que du samedi jusqu'à jeudi, ce sont les consultations et la préparation à cette guerre. Donc le vendredi après l'Assad, lorsqu'on lui dit « on regrette », le professeur Hassan fait comprendre que c'est fini. Et donc beaucoup de savants disent en fait cette parole, c'est pour faire comprendre que « khlas », maintenant c'est l'heure de la détermination, il faut être déterminé. Il ne faut plus semer le doute dans nos convictions et dans les décisions qui ont été prises. On a dit « on part », on part. Et là on a ouvert une parenthèse la semaine dernière, on a expliqué… comme on aime le faire régulièrement lorsqu'on étudie ici la vie du prophète, pour prendre le temps de bien faire les choses, c'est que comment les Médinois ont vécu ces préparatifs. Et on a donné quelques exemples. Pour dire, d'une certaine manière, que même si nous, on a l'habitude d'étudier la vie du prophète, et de dire, voilà, il y a la bataille de Uhud, ils sont partis, il y a eu la bataille, c'est comme ça qu'on raconte la vie du prophète, ah, mais nous, là, on prend le temps. Et quand on prend le temps, on se rappelle qu'au final, il y a des familles. Il y a des hommes, il y a des frères, il y a des maris, il y a des épouses, il y a des fils, etc. Et que la vie, elle continue. Il y a certes cette panique, il y a cette menace des idolâtres, mais en même temps, la vie, elle continue à Médine. La vie, elle continue tellement qu'on a expliqué qu'il y a eu ce jour-là la janaza, la mort et la janaza d'un compagnon du professeur Hassan, Malik ibn Amr. C'est-à-dire que le professeur Hassan prie la janaza et en même temps il se prépare à partir à Uhud. Et on a la famille de ce défunt, radiallahu anhu, qui eux aussi se préparent comme tout le monde, ont peur comme tout le monde, et en même temps, ils perdent l'être qu'ils aiment. On a expliqué que ce jour-là, il y a Hamdala ibn Abi Amir qui s'est marié, et qui pourtant, il va quand même assister à la bataille de Uhud à un tel point qu'il n'a pas eu le temps, lui. C'était sa nuit de noces, il n'a pas eu le temps. Il avait peur de rater l'armée, donc il n'a pas eu le temps de faire les ablutions majeures. Et c'était sa première nuit de noces. Et il va tomber en martyr à la bataille de Uhud, à un tel point qu'il sera surnommé par le professeur sallam, Ghassilul Malaika, celui qui a été lavé par les anges. C'est les anges qui vont le laver. On a parlé de ce qui se passe chez le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram, qui laisse derrière lui un fils jeune, le célèbre compagnon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, et qui laisse des filles en bas âge. Et ce soir-là, il prévient son fils. Il lui dit, je te laisse, et je te laisse la responsabilité de mes dettes, parce qu'il était endetté, et je te laisse la responsabilité de mes filles, parce que je ne pense pas que je vais revenir. Et je pense même que je vais faire partie des tout premiers à mourir dans cette bataille. Et cette version, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il est le premier à tomber en martyr à la bataille de Uhud. On a raconté aussi ce qui se passe dans la demeure de Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu, qui, à chaque expédition, il a 4 fils adultes. Et à chacune des expéditions et des batailles avant, il a toujours voulu y participer, mais il est vieux, malade, et il boite. Ses fils refusent, et ses fils ils y vont, mais ils refusent de laisser leur père y aller, parce qu'il est, à juste titre, il est vieux, malade, etc. Et il boite. Et là, cette fois, il ne lâche rien. Il dit, cette fois, je vais y aller. Tout le temps, vous m'avez refusé, cette fois, je ne raterai pas cette occasion. Je vais partir. À un tel point qu'ils lui disent, mais tu regarde dans quel état tu es malade, tu es vieux, et tu boites. Comment tu vas faire tu boites? Tu vas combattre? C'est pas possible. Et lui, il leur répond quoi? Cette démarche boiteuse, je boite. Inni uridu an ata'a bi'arjati hadhihi fil jannah. Vous avez toujours pas compris? Moi, je veux boiter dans le paradis. Vous dites que je ne suis pas compétent pour la guerre parce que je boite. Eh bien justement, moi je veux à cette guerre pour y mourir et pour pouvoir continuer à boiter, mais plus sur terre, au paradis. Non. Ensuite, on peut maintenant s'intéresser à ce trajet que le prophète sallam va faire pendant cette nuit. On sait que la bataille de Uhud va se dérouler le lendemain, le samedi. Qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit? D'abord, il faut savoir qu'il n'y a rien d'absolument authentique qui nous dit exactement par où le professeur Hassan est passé, comment ça s'est passé, etc. Mais il y a des versions authentiques, des versions à fois historiques qui ne sont pas authentiques, sur lesquelles on va se baser. Et grosso modo, on n'a pas de carte devant nous, mais imaginez que vous avez la ville de Médine devant vous, la montagne de Uhud, et là où va se dérouler la bataille de Uhud, c'est au nord de Médine. Et donc, vous avez la ville de Médine, vous avez le nord, vous avez l'est, vous avez l'ouest et vous avez le sud. Et au nord, il y a Uhud. Les Mécois, les idolâtres, ils arrivent de où? Ils arrivent de la Mecque, donc du sud. Et pourtant, la bataille va se dérouler au nord. Et ça, c'est la stratégie aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a choisi l'endroit. Non. Et pour aller vers Uhud, le plus logique, c'est de faire quoi? C'est au nord, Uhud. Eh bien, c'est d'aller vers le nord. Le prophète Hassan va faire quoi? Il va aller vers l'est. Il va couper la ville de Médine vers l'est. Jusqu'à un endroit qu'on appelle Thaniyatul Wada'. C'est l'endroit par où on rentre, où on sort de Médine, à l'est. Thaniyatul Wada'. Pourquoi il fait ça, le prophète Hassan, alors qu'il veut aller à Uhud? Pour laisser penser qu'il se dirige vers l'est. Et on sait que, alors encore une fois, il n'y a pas un texte authentique qui le dit, mais quand on étudie toutes les versions historiques, on peut quand déduire que les idolâtres, ils sont situés où? Ils ont commencé à camper Et ils attendent que toute l'armée arrive. Ils campent un peu partout à l'est de Médine. Donc ça laisse sous-entendre qu'ils veulent prendre la ville par l'est. Parce que c'est un endroit plat, c'est l'endroit le moins protégé. Alors qu'au nord et à l'ouest, il y a les hauteurs. Et au nord, il y a la montagne de Uhud. Et donc le professeur Sam va vers eux, comme s'il allait à leur rencontre. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers l'est pour ensuite contourner toute la ville de Médine, pour aller vers le nord et pour aller jusqu'à Uhud. Donc il commence par Thaniyatul Wada', et dès qu'il arrive à Thaniyatul Wada', il monte. Finalement, il prend vers le nord. Il prend vers le nord. Alors ici, il y a deux versions historiques qui s'affrontent. Une version qui nous dit que le prophète Hassan n'est sorti de Médine qu'après la tombée de la nuit. Et une version qui nous dit qu'il est sorti avant la tombée de la nuit et il va prier le Maghrib et l'Aïcha sur son trajet. En prenant cette deuxième version, ce qu'on nous dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti jusqu'à Thaniyatul Wada'. Et c'est là, dans une version qu'on avait dit la semaine dernière, qu'elle n'était pas authentique, que une tribu juive, une brigade même, ils ont une tribu juive a organisé une brigade pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont des pactes d'alliance et de soutien mutuel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tribus juives de Médine. Mais cette version n'est pas authentifiée, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait dit « Retournez, nous n'avons pas à vous demander votre soutien. » Il les a remerciés d'avoir été jusqu'au bout de leur parole et de leur engagement, mais il leur a dit « C'est pas la peine. » Il les renvoie, mais cette version n'a pas été authentifiée. D'ailleurs, j'avais expliqué la semaine dernière que tout ce qui a été dit à propos des positions, des rôles qu'ont joué les tribus juives pour la bataille de Uhud, on le trouve dans les livres historiques, mais nous sommes rigoureux dans la science, et donc par honnêteté intellectuelle, nous disons rien de tous ces récits n'a été authentifié. Parce qu'il y a plusieurs choses, en plus, toutes contradictoires les unes des autres. On nous dit que cette brigade de Thaniyatul Wada' aurait été renvoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains historiens ont été même jusqu'à dire que cette brigade a été organisée par la tribu juive des Bani Qaynuqa. Or, c'est impossible, puisqu'à ce moment-là, les Bani Qaynuqa ont déjà été exilés. Ils sont partis, ils sont plus à Médine. On avait expliqué, nous, qu'auparavant, il y avait eu un souci entre les musulmans et la tribu des Bani Qaynuqa, et qu'ils avaient tué un musulman, ils avaient humilié une femme musulmane en public en la dénudant, etc. Bref, et le professeur Hassan les avait assiégés, et finalement, à travers des pourparlers, pour pas que le sang coule, le professeur Hassan avait accepté qu'ils se rendent à condition qu'ils aillent vivre ailleurs. Donc on sait à ce moment-là que les Bani Qaynuqa ne sont plus à Médine. Ce qui vient confirmer et appuyer que cette version n'est pas authentique. On nous dit que les Bani al-Nadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur aurait demandé leur soutien et qu'ils auraient refusé. Mais c'est une version, encore une fois, historique qu'on voit dans certains livres, mais rien ne permet de l'authentifier. Et si c'était vrai, si c'était authentique, c'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé faire. Après la bataille de Uhud, à son retour de la bataille de Uhud, il aurait demandé à ce qu'on règle les comptes, puisqu'il y a un pacte qui les lie. Ensuite, il y a les Bani Qurayza. Quelle a été la position de la tribu juive des Bani Qurayza? Dans ces livres d'histoire, on retrouve que la tribu des Bani Qurayza aurait invoqué la neutralité. Nous sommes neutres, ni pour les uns ni pour les autres, ni contre ni pour. Et ici aussi, ce n'est pas possible, puisqu'ils sont tenus par des engagements, par un pacte d'alliance et de soutien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de toute façon, comme on a dit, ce n'est pas authentifié. Ils n'ont pas les mêmes, jusqu'à citer une version, une narration que les muhadithines, ils ont jugé mursala. Qu'est-ce que ça veut dire mursala? On l'a déjà expliqué. Mursala, c'est quand la chaîne de transmission s'arrête à la génération des tabi'i. Pour que le hadith soit même pas authentique, hein, pour que le hadith, on puisse enquêter dessus, il faut que la chaîne de transmission arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si quelqu'un il te dit, mon arrière-grand-père a dit que telle chose. Et quand tu regardes la chaîne de transmission, elle s'arrête à la génération de ton père, c'est-à-dire la génération de ton grand-père qui est censée lier entre la génération de ton père et ton arrière-grand-père. C'est un trou, il n'y a rien. Comment tu fais pour enquêter? Même si cette chaîne de transmission qui s'arrête à ton père, elle est authentique, il nous manque quelque chose. Donc on ne peut pas dire que c'est une version authentique. Pourquoi ? Parce que ça, même si c'est authentique, cette chaîne de transmission, il nous manque un bout. Et donc même si c'est authentique, on a deux théories. Soit c'était une parole qui doit être attribuée au grand-père, pas à l'arrière-grand-père, c'est pour ça qu'il y a un trou. Ou soit c'est vraiment une parole qui est attribuée au grand-père, mais on ne sait pas par qui. Et donc tant qu'on ne sait pas par qui, peut-être que ce par qui, cette personne, si on la retrouve, cet intermédiaire, peut-être qu'il n'est pas fiable. Et donc ça devient da'if, faible. Et ici, une version mursala, c'est une version qui remonte jusqu'à la génération des tabi'is. Donc il y a le professeur sallam. Après sa mort, il y a les compagnons. Après les compagnons, il y a la génération des tabi'is. Après les tabi'is, il y a les tabi'is, tabi'is, etc. Et le mursal, c'est ce qui s'arrête à la génération juste après les compagnons. Donc c'est un tabi'i qui nous raconte ça, mais il l'a entendu de qui ? Lui, il n'a pas vécu cet événement. Il n'était pas encore né. Et on ne sait pas s'il y a un trou, on ne sait pas s'il l'a entendu d'un compagnon. Peut-être qu'il n'a même pas entendu d'un compagnon. Peut-être qu'il l'a entendu d'un autre tabi'i. Et que si on avait le nom de ce tabi'i, on se rendrait compte qu'il n'est pas fiable. Oui, je rentre dans le technique de la science du hadith. Mais c'est pour vous expliquer pourquoi on dit que cette version, elle est mursala, et donc elle n'est pas authentique. Mais dans cette version, dans cette narration mursala, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que les compagnons de Médine sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant le départ. Et ils ont dit « Ala nasta'inu bihulafa'ina min al-yahoud ». Ne demanderions-nous pas le soutien de nos alliés, les juifs, puisqu'ils sont alliés aux juifs ? Ils les considèrent comme leurs alliés. Demandons le soutien de nos alliés. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « La hajata lana fihim ». On n'a pas besoin de leur soutien, on peut y aller sans eux. Mais cette version, encore une fois, elle n'a pas été authentifiée. Et ça, c'est important de le dire. Léanna, comme on a déjà expliqué, nous, on raconte l'histoire. Mais quand on raconte l'histoire, ça reste quelque chose qui est raconté. Mais est-ce que c'est authentique ou faible ? Il n'y a que nous qui le faisons, ça. Il n'y a que nous qui le faisons. Quand on nous raconte l'histoire de toutes les autres civilisations, on rapporte des récits, des informations, mais quelle est la chose qui permet de dire c'est vraiment arrivé, ou la chose qui va nous dire bah, c'est une légende, en vérité, on ne sait même pas si c'est vraiment arrivé ou pas. Mais il faut qu'il y ait une étude qui soit faite. Il faut déjà qu'il y ait des chaînes de transmission pour que cette étude soit faite. Et dans nos sciences à nous, n'importe quel khabar qui est rapporté, on le fait beaucoup avec les ahadiths, mais on ne le fait pas qu'avec les ahadiths. N'importe quel khabar, n'importe quelle information qui est rapportée, on ne peut l'utiliser et l'attribuer à celui qu'on prétend qu'il l'a dit que si on a une chaîne de transmission, et une chaîne de transmission fiable et authentique. Et ça, on le fait même avec l'histoire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on s'intéresse et on s'arrête à dire, voilà, tel événement, il a été authentifié, tel événement, il n'a pas été authentifié. Donc nous, on raconte l'histoire comme on le raconte pour n'importe quel autre pays ou civilisation, sauf qu'on précise, ça n'a pas été authentifié ou ça a été authentifié. Quand ça n'a pas été authentifié, ça reste de l'histoire. C'est vrai ou c'est pas vrai, Allahu A'lam. Et quand on dit ça a été authentifié, ça veut dire c'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé dans le sens, tu as 99,9999% de chances que c'est arrivé. Pourquoi je dis 99,999% et pas 100%? Parce que ça reste une chaîne de transmission, même si l'étude elle a été faite, l'enquête elle a été faite, il y aura toujours une part de doute. Quand est-ce qu'on n'a pas le doute? C'est quand la chaîne de transmission elle est ce qu'on appelle en arabe « mutawatir ». J'avais dit que je n'allais pas rentrer dans le technique, mais vous me connaissez. C'est quoi le mutawatir? C'est la chaîne de transmission abondante. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chaînes de transmission qui rapportent cette information qu'au bout d'un moment, tu dis stop, j'ai même plus besoin d'enquêter. C'est comme si quelqu'un rentre maintenant dans cette salle. On est venu, on s'est introduit ici dans la mosquée, il y a une demi-heure, il y a 40 minutes. Ah, et on a vu le temps qu'il faisait. Si quelqu'un rentre et il nous dit il neige dehors. Non, on est arrivé, c'était pas un climat de neige, c'est pas un temps de neige. Est-ce qu'on va le croire? Ah, ben il délire. C'est pas possible. Si une deuxième personne après lui rentre, il neige dehors. Il y en a deux qui le disent quand même. Mais c'est pas assez, parce que moi, ce que j'ai vécu avant de rentrer, c'était pas un temps qui annonçait de la neige. Un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Le premier qui te le dit, tu lui poses des questions, tu fais ton enquête, tu lui demandes est-ce qu'il a bien vu la neige, est-ce qu'il ne s'est pas trompé. Le deuxième, la même chose. Le troisième. Au bout d'un moment, tu arrives à un nombre, si tu arrives au quinzième, au vingtième, est-ce que tu continues à poser la question? Et tu n'as plus besoin d'aller vérifier. Quand tu arrives à la quarantième personne, non seulement tu ne vérifies pas cette personne si elle est fiable ou pas, parce que tu en as 40 qui te le disent. Donc ça devient quoi? Ça devient abondant, mutawatir. Même si tu ne l'as pas encore, tu l'as pas vu de tes yeux, qu'il y avait de la neige, tu y crois à 100%. C'est dans ce cas-là qu'on croit à 100%. Qu'est-ce qui est mutawatir? Le Coran. Le Coran, il a été rapporté par des chaînes de transmission mutawatir, c'est pour ça que nous disons que le Coran, il n'a pas été modifié. Le Coran qu'on lit, dans les sept accents, dans les sept lectures, tous les versets ont été rapportés de manière mutawatir. Les hadiths, on a des hadiths mutawatir et des hadiths ahad. Les hadiths mutawatir, c'est ce que je vous ai dit, quand les chaînes de transmission sont tellement abondantes qu'on ne peut pas réfuter. Sauf que les savants du hadith, ils divergent entre eux. C'est quoi un hadith mutawatir? C'est à partir de combien de narrateurs? Combien de chaînes de transmission? Il y en a, ils disent, le minimum, c'est sept. Après sept, c'est tous mutawatir. Mais la majorité des savants du hadith, ils disent, non, sept, c'est pas assez. Huit, c'est pas assez. Il y en a, ils disent dix. Il y en a, ils vont jusqu'à 30. Il y en a, ils vont jusqu'à 40. Et il y en a même, ils ont été jusqu'à 70. C'est-à-dire que pour ces savants-là, vous imaginez, un hadith dans lequel il est rapporté par 69 chaînes de transmission différentes, pour lui, c'est toujours pas un hadith mutawatir. Il faut faire l'enquête et le rendre sahih ou faim. Alors que les autres savants, ils se sont arrêtés bien avant. Et ça, c'est important de le savoir et de le préciser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, des gens qui veulent mettre en doute le hadith. Ouais, mais le Bukhari, le Muslim, au final, c'est des hommes. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que c'était authentique ou pas? Est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas? Est-ce qu'ils disent ce que le professeur Sam a dit? D'où, comment on le sait? Eh bien, même si le hadith n'est pas mutawatir, il y a plusieurs branches du hadith qui n'est pas mutawatir. Le hadith qui n'est pas mutawatir, c'est ce qu'on appelle le hadith al-ahad. Le hadith al-ahad, ça peut vouloir dire qu'il a cette chaîne de transmission différente. Ça peut vouloir dire qu'il y en a cinq. Ça peut vouloir dire qu'il y en a quatre. Ça peut vouloir dire... Et rares sont les hadiths qui n'ont qu'une chaîne de transmission. Et même comme ça, ils font l'enquête. S'il n'y a qu'une chaîne de transmission, ils font l'enquête. Et s'il est authentique, nous, on le considère comme authentique. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'idées comme ça qui reviennent, hein, alors qu'elles ont été connues avant pour n'appartenir qu'à la secte des Mu'tazila. Et aujourd'hui, on voit des gens qui pourtant adhèrent à l'Sunna wal-Jama'a et qui rapportent des idées et des règles qui ont été émises que par la secte des Mu'tazila. Parce que la secte des Mu'tazila, ils prenaient la raison et ils disaient d'abord la raison et après le texte. Nous disons d'abord le texte et après la raison. S'il y a un texte que je ne comprends pas, alors il faut que j'aille voir toutes les interprétations parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Eux, ils disent, si ma raison ne le comprend pas, alors c'est le texte qui a un problème. Et donc, mais pour faire ça, il faut que tu puisses avoir des règles qui te permettent de rejeter le texte. Et donc, eux, ils disent, tout ce qui n'est pas mutawatir, c'est sujet au doute. C'est sujet au doute. On n'est pas forcé de le prendre en compte. Et ça, c'est une grave erreur. Et c'est une façon, finalement, de réfuter la sunna du professeur sallam et de mettre à mal un travail conséquent qui a été fait par nos savants. Et au final, la seule chose qu'on leur dira, rapportez-nous autant ou mieux. Rapportez-nous la même œuvre, le même travail qui a été fait par les muhaddiths de l'époque, par les muhaddithoun de l'époque, et qui ont fait un travail énorme dans l'authentification et l'affaiblissement des chaînes de transmission. Personne d'autre n'a fait ce travail. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et dire, après des siècles et des siècles, ouais, mais qu'est-ce qu'on en sait? Qui veut qu'est-ce qu'on en sait? Alors, ils ont fait le travail sur les chaînes de transmission. C'est pas, ils sont venus comme ça, ils ont dit, ah, bah, il est faible ou il est authentique comme ça de leur tête. Non. À la Koulihal, je me suis éloigné finalement donc de Médine, on va revenir à Médine. On a dit, le professeur Hassan part vers l'Est, selon ses versions historiques. Et il s'arrête à Thaniyat, il passe par Thaniyat al-Wada'a. Et dès qu'il arrive à Thaniyat al-Wada', donc à la limite de Médine, il contourne Médine pour aller vers le nord. Et il arrive à Sheikhane. Sheikhane, un endroit à la périphérie au sud de Médine. Donc il faut bien comprendre que quand le professeur Hassan, il coupe vers l'est, il ne sort pas totalement de Médine, il va juste à la limite, à la frontière de Médine. Comme s'il va à la rencontre des campements des idolâtres. Parce que les idolâtres sont campés dans des endroits différents, tout à l'est de Médine. Et finalement, quand il arrive à Thaniyatul Wada, donc il a fait comme s'il allait droit vers les idolâtres, il remonte, il contourne. Et il arrive à un endroit qu'on appelle Sheikhan. Et selon les versions historiques qui n'ont pas été authentifiées, le professeur Hassan s'arrête là pour prier la prière de l'Maghrib et la prière de l'Aïcha. Et certains vont même jusqu'à dire que c'est là que le professeur Hassan a passé en revue l'armée. Nous, on reviendra plus tard sur le passage en revue de l'armée, puisque le professeur Hassan, il va renvoyer plusieurs de ses compagnons, les considérant trop jeunes pour le combat. Aujourd'hui, on entend, quand il y a des guerres et tout ça, qu'il y a des règles pour la guerre, et que l'ONU, depuis quelques décennies, a émis la règle que les enfants, on n'a pas le droit d'enrôler les enfants dans la guerre. Le professeur Hassan, dans chacune de ses batailles, il sortait de la ville de Médine et il s'arrêtait à un endroit pour passer en revue son armée, en particulier pour faire quoi ? Pour chercher les enfants qui s'y étaient introduits. Quand je dis les enfants, c'était des adolescents. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des armées qui vraiment enrôlent des enfants. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Là, on va parler de ceux qui vont être envoyés par le prophète sallam, c'est 14 ans, 13, 14 ans. Le professeur Hassem les renvoie. À l'époque, le professeur Hassem considérait qu'à partir de 15 ans, on est à la rigueur un adulte, pas avant. Et ça a été fait par le professeur Hassem il y a des siècles. Et ces règles, elles ont été mises en place par la communauté internationale il y a quelques décennies. Non. Même si malheureusement, encore beaucoup de pays, non seulement font la guerre, et on doit être contre la guerre, quelle que soit sa forme. Alors vous allez dire, oui, mais nous on raconte des histoires de guerre dans la vie du professeur Hassan. Oui, mais comme on l'a déjà dit régulièrement et souvent, le professeur Hassan a toujours voulu la paix. Jusqu'à ce qu'il n'a plus eu le choix. Et que pour avoir la paix, il a été obligé de passer par la guerre. À un tel point que pendant 13 ans, alors qu'il était persécuté, harcelé, torturé, etc., jamais il n'a déclaré la guerre à quiconque. Et alors que les compagnons étaient insistants, on peut se défendre. On peut faire la guerre. Le professeur Hassan leur disait, interdit la guerre. La guerre, faites-la contre vous-même, contre vos passions. Non. Ala kulli hal. Donc, dans cet endroit qu'on appelle Sheikhan, certains historiens disent que c'est là que le professeur Hassan va passer en revue son armée et qu'il va renvoyer certains compagnons. Ça, nous, on l'expliquera en détail plus tard. Après avoir pris le Maghreb ou l'Aïcha, le professeur Hassan va donner un temps de pause pour ceux qui veulent dormir un petit peu, pour ceux qui veulent se reposer. Et il va désigner un groupe de 50 compagnons qui ont la charge de surveiller le campement des musulmans. Parce que là, il y a même des versions historiques qui disent que pendant tout le trajet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les idolâtres se voyaient. Ils se voyaient, les nains ils sont à la périphérie, ils sont à l'horizon. Et de ce côté-là, c'est plat, il y a le désert. Donc les idolâtres voient l'armée qui se dirige vers le nord et l'armée des musulmans voit les idolâtres qui campent de l'autre côté. Et donc le professeur Hassan, lorsqu'il s'arrête à cet endroit, évidemment, il craint qu'il puisse être attaqué par surprise pendant la nuit. Et donc, il nomme 50 compagnons qui, eux, sont chargés de ne pas dormir et de surveiller les alentours du campement pour sonner l'alerte s'il y a un quelconque danger. Et à la tête de ce groupe de 50 compagnons, il nomme le compagnon Muhammad ibn Maslama, radiyallahu anhu. Si vous vous rappelez, Muhammad ibn Maslama, radiyallahu anhu, on a déjà parlé de lui, lorsqu'on avait parlé de l'incident de Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, celui qui avait incité, qui s'était allié avec les idolâtres à la bataille de Badr, qui était parti leur présenter ses condoléances et qui avait ouvertement montré son hostilité, etc. C'était Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu qui était parti le voir et qui l'avait tué. Et bien ce Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu, il est nommé par le professeur Hassan pour être à la tête de ses 50 compagnons qui sont chargés de garder le campement des musulmans. Et ensuite, le compagnon qui va se charger de garder, parmi ces 50 compagnons, il y a un compagnon qui est chargé, lui, de surveiller l'attente du prophète. Parce qu'il se peut aussi que les idolâtres ne cherchent pas forcément à attaquer comme ça le campement, mais ils prévoient tous les compagnons. Ils peuvent envoyer un homme qui va s'introduire dans l'armée, qui va s'habiller comme les musulmans, et pendant la nuit, chercher l'attente du prophète sallam pour s'y introduire et tuer le prophète sallam, et le tour est joué, ils retournent à la Mecque, ils n'ont plus rien à réclamer. Donc, il y a un compagnon qui a une seule mission, c'est de surveiller les alentours de l'attente du prophète sallam. Personne n'entre, ni personne ne sort de l'attente du prophète sallam. Et ce compagnon, c'est Dhakwan ibn Abi Qais. On dit que les biographes disent, les historiens nous disent que Dhakwan ibn Abi Qais, c'est lui, avec As'ad ibn Zurara, les deux premiers hommes de Médine qui se sont convertis à l'islam. Non. Ala kulli hal, après ce moment, cette pause pendant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend la route avant le fajr, avant l'aube. Et il continue à s'enfoncer vers le nord, tout en longeant la ville de Médine. Il n'y sort pas, il ne sort pas vraiment de la ville de Médine et il ne revient pas dedans. Il longe la limite, en fait, la périphérie de Médine. Donc, imaginez que c'est comme s'il faisait un arc de cercle. Yani. Il coupe et ensuite il tourne pour aller jusqu'au nord, au lieu de prendre directement vers le nord, pour que personne ne sache exactement où est-ce qu'il veut aller. Quel endroit il choisit pour intercepter l'armée des idolâtres. Et ensuite, il va s'arrêter pour la prière de l'Fajr à un endroit qu'on appelle Ash-Shawt. Et on va parler de Ash-Shawt et ce qui va s'y passer. Mais après Ash-Shawt, le professeur Hassan continue et il va traverser les Bani Haritha. Et là, le jour, il vient de se lever. Et là, on le voit clairement. Les idolâtres le voient. Et le professeur Hassan veut que les idolâtres ne le voient pas. Donc à cet endroit-là, il va demander quelque chose à son armée, sur laquelle on reviendra plus tard, pour être sûr que les idolâtres ne découvrent qu'à la dernière minute qu'il a choisi la montagne de Uhud pour y mener la bataille. Mais on revient à Ash-Shawt. Qu'est-ce qui va se passer à Ash-Shawt? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Ash-Shawt, donc là, vous voyez, je vous ai donné les détails, Thaniyatul Wada'a, Al-Shaykhan, Al-Shawt, Bani Haritha et Uhud. Ces détails, il n'y a rien qui permet de l'authentifier. Aïwa. Ce sont les versions historiques. Les historiens nous disent ça. Non. Mais en tout cas, ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on nous raconte pendant ce trajet, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la trahison des hypocrites. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc je vous rappelle qui est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est quelqu'un qui a refusé de se convertir à l'islam au moment où les musulmans sont arrivés à Médine. Et ce n'est pas un problème en soi. Le prophète ne lui a pas imposé de devenir musulman. La preuve, il a vécu pendant un an officiellement en étant idolâtre et ça n'a pas posé de problème au prophète ni aux musulmans. Ce qui a posé problème, c'est ce qu'il va faire, ses méfaits. Le prophète, quand il arrive à Médine, comme on l'avait déjà dit plusieurs fois, la première chose qu'il met en place, c'est le pacte entre les différentes composantes de Médine, qu'ils soient musulmans ou non. Mais Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il est, lui et ceux qui le suivent dans ses opinions, ils sont idolâtres jusqu'au lendemain de la bataille de Badr. Et quand le prophète Hassan revient de la bataille de Badr, lui et son groupe d'hypocrites, pourquoi on les appelle les hypocrites? Parce qu'ils vont se convertir à l'islam et finalement, tout ce qu'ils vont faire après leur conversion à l'islam va prouver qu'ils ne sont pas sincères dans leur conversion à l'islam. Qu'ils ne se sont convertis à l'islam que par crainte, parce qu'ils ont vu que les musulmans ont gagné la bataille de Badr, donc ils ont peur que le prophète Hassan ne leur cause du tort, alors que le prophète Hassan, il a un engagement avec eux. Et encore une fois, on a dit, il n'a aucun problème avec ça. C'est à lui qu'Allah Azza wa Jalla a révélé lakum dinukum waliyadin. Dis-leur, dis aux non-musulmans, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Respectez-moi, je vous respecte. Respectez ma religion, je vous respecte. Ça fait? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui aussi qui va demander à ce qu'on ne sorte pas de Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va consulter ses compagnons, est-ce qu'on reste à Médine ou on va à la rencontre des idolâtres? Lui, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, va dire on reste à Médine. Pourtant, c'est justement l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est parce qu'il est convaincu par l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il veut être comme, il veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime, ou il veut montrer qu'il est du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas du tout. C'est parce que lui, il ne veut surtout pas combattre. Comme c'est un hypocrite qu'il fait semblant d'être musulman. Si l'armée, elle sort, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il reste à Médine, et il devra justifier pourquoi il n'est pas sorti avec l'armée. Et il sait que tout le monde a des doutes sur lui. Donc il sera obligé de sortir. Et s'il sort, bah non seulement il risque sa vie et il a peur de mourir, il ne veut pas mourir. Surtout pour une cause en laquelle il ne croit pas. Et en plus, on sait que secrètement, il est lié aux idolâtres. Donc comment il va se préparer et va se présenter dans un champ de bataille face aux idolâtres avec son épée, alors qu'à chaque fois il leur dit secret de travers des lettres, je suis de votre côté. Vous inquiétez pas, regardez, je vais faire des choses pour vous aider, pour vous soutenir. Et donc, pour éviter d'être démasqué, il demande à ce qu'on reste à Médine. Mais évidemment, les arguments qu'il donne, c'est pas ça. Il dit pas, c'est pour que vous ne me démasquiez pas. Non. Il aurait été trop bête. Il dit, c'est pour mieux les combattre à l'intérieur, etc. Et en vérité, c'est pour que lui puisse mieux se cacher. Et peut-être même pour qu'il puisse mieux faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son armée, qu'on ne sache pas, en même temps on ne sait pas que c'est lui puisqu'il est caché dans les demeures, dans la ville. Et bien sûr, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, au moment où l'armée elle part, il est bien obligé de partir. Et lorsqu'ils arrivent à Shaut, donc là où ils ont prié le Fajr, au moment où le jour commence à se lever, et donc que les idolâtres voient encore mieux ce qui se passe, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il commence à parler aux gens et il dit, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que nous allons combattre? Et pourquoi mourir ici? Ah, il commence à semer le doute dans l'armée. Et bien sûr, au loin, les idolâtres doivent voir cette scène. Et il dit aux gens, retournons chez nous. Et lorsqu'il se trouve assez loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi à ceux qu'il sait qu'ils sont comme lui, des hypocrites comme lui, il leur dit, ata'ahum wa asani. Il leur a obéi en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des compagnons. Il a obéi aux compagnons, il leur a obéi, wa asani, et il m'a désobéi. Il parle de quoi? Au moment de la consultation, lorsqu'il a dit « Restons à Médine ». Ata'ahum wa asani. Là, on voit son orgueil. Il y en a tout avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, pour la hijra, tout était prêt pour que Abdullah ibn Ubay ibn Salul soit nommé chef et même roi. Dans certaines versions, on allait faire de Médine une monarchie et on allait le nommer roi de Médine. Et son plan, son projet de devenir le roi de Médine, mais il est tombé comme un château de cartes au moment où les Médinois se sont convertis à l'islam et ils ont proposé au prophète sallam de venir à Médine. Donc lui, il a cette haine envers le prophète sallam qui débute à ce moment-là. Parce qu'il a l'amour du pouvoir et donc son orgueil. Et on le voit dans cette parole. Même si cette parole qu'on attribue à Abdullah ibn Ubay ibn Salul, par honnêteté intellectuelle, on le dit, elle est rapportée par l'historien Ibn Ishaq, mais sans aucune chaîne de transmission, ce qui ne nous permet pas de la rendre authentique. Et donc, il dit, ata'ahum wa asani. Il leur a obéi, moi il m'a désobéi. Wa ala ma naqtulu anfusana ha huna ayyuha an-nas. La nadri ala ma naqtulu anfusana ha huna ayyuha an-nas. Nous ne savons pas pourquoi nous allons tuer nos vies, risquer nos vies ici. Pourquoi? Non. Et il y a un verset du Coran, parce que là on a dit, les versions qui parlent de cet événement ne sont pas authentiques. mais un verset du Coran qui y fait référence. Donc on sait que c'est vraiment arrivé. La trahison des hypocrites est vraiment arrivée parce qu'il y a un verset, il y a un verset qui en parle dans Surat Al-Imran, le verset 122. Mais donc ce qui n'est pas authentique, c'est les détails. Qu'est-ce qui a vraiment été dit, comment ça s'est fait. Mais la trahison, elle a eu. Non. Ce verset, il dit quoi? Il dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Et afin qu'Allah distingue et voit et connaisse qui sont les hypocrites. On parle du moment de la bataille de Uhud. Le verset d'avant, afin qu'Allah distingue les croyants. Le verset d'avant, il se termine comme ça. Et là, ce verset, il débute en disant et afin qu'il distingue qui sont les hypocrites. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. Et on leur a dit, c'est-à-dire aux hypocrites, تعالوا, venez, قاتلوا في سبيل الله, combattre dans le sentier d'Allah. أو ادفعوا, ou au moins défendez. Venez pour combattre les idolâtres. Et si vous ne voulez pas combattre les idolâtres, au moins défendez votre ville. Là, c'est les idolâtres qui sont venus. On ne vous dit pas d'aller jusqu'à la Mecque. Ah oui, de Pharaon. Au moins rejeter la menace qui vous guette. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. Ils ont dit, يعني les hypocrites, لو نعلم قتالا لاتبعناكم. Si nous avions su qu'il allait vraiment avoir une guerre, nous vous aurions suivi. Donc le Coran, lui, nous dit qu'en fait, les hypocrites, ils auraient dit ça. L'argument qu'ils ont utilisé, c'est de dire eh non, mais ils ne vont pas nous attaquer, ils vont pas. Ils sont juste là pour bluffer. Donc ça ne sert à rien. Si vraiment il y avait une guerre, oh, vous aurez suivi, mais à quoi ça sert qu'on y va? On sait qu'il n'y aura pas la guerre. Le faux prétexte, Yarni. N'ayez pas peur, restez chez vous. Vous imaginez si les musulmans, ils les écoutent. Ah ouais. Ils ont peut-être raison en fait, restons chez nous. Et qu'ils se fassent attaquer et massacrer. Chauve-le. Le vice, hein, qu'ils mettent, qu'ils essayent de propager dans l'armée des musulmans. Là, on a la moukita al-tabarnakou. Si il y avait une guerre, on vous aurait suivi, on aurait été les premiers, nous. Mais il n'y aura rien, t'inquiète pas. Reste à la maison. Non. Et dans les versions historiques, on nous dit que c'est carrément le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram, dont on a parlé la semaine dernière, qui a prévenu son fils le soir, la veille de Uhud, Jabir ibn Abdullah, en lui disant « Je pense mourir parmi les premiers, occupe-toi bien de mes filles, de tes sœurs, et essaye de rembourser mes dettes. » Eh bien, Abdullah ibn Amr ibn Haram, il a honte de ce que Abdullah ibn Ubay ibn Salul fait, le chef des hypocrites. Pourquoi il a honte? Parce qu'il appartient à la même tribu et donc il se sent attaqué. Lorsqu'il voit que Abdullah ibn Ubay ibn Salul commence à convaincre les gens, que des gens le suivent. Et à un moment, il y a même deux tribus qui sont pourtant pas des... Dans leur ensemble, ils ne sont pas des hypocrites. Il y en a quelques-uns parmi eux, mais dans leur ensemble, ce n'est pas des hypocrites. Les Bani Salama et les Bani Haritha, qui sont sur le point de le rejoindre, de retourner à la maison, de retourner à Médine. Ils l'écoutent et ils sont convaincus, ils commencent à être convaincus. Et ici, on a la position de Abdullah ibn Amr ibn Haram, selon les historiens. Et c'est une version qui est Mursala, qui s'arrête au Tabi'i. On nous dit que Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu, va venir et il va s'adresser aux gens, à ces personnes qui rejoignent, les uns après les autres, Abdullah ibn Ubay ibn Salul pour retourner, pour repartir à Médine. Et il leur dit ta'ala ou qatilu fi sabilillah, aw idfa'u. C'est-à-dire ce qui a été cité dans le verset, Allah Azza wa Jal, ce qui a cité dans le verset de Ali Imran, ce serait Abdullah ibn Amr ibn Haram qui l'a dit. Et donc Allah Azza wa Jal ferait référence à Abdullah ibn Amr ibn Haram. Femme là. Ça, on n'a pas de certitude. Est-ce que c'est vraiment Abdullah ibn Amr ibn Haram? Parce que ça, c'est une version mursala, comme on a dit, qui s'arrête au tabi'i. Cette parole, elle a vraiment été dite, mais peut-être qu'elle a été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'elle a été dite par un autre compagnon. Mais en tout cas, les versions historiques, elles nous disent c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et donc, Abdullah ibn Amr ibn Haram, les historiens nous disent, il s'est levé, il leur a dit تعال فني قاتلوا في سبيل الله وادفعوا combattez pour Allah ou au minimum défendez-vous. On est menacé, on est attaqué, défendez-vous. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul va refuser catégoriquement. Et 300 personnes vont le suivre. Abdullah ibn Amr ibn Haram, il va réussir à convaincre la tribu d'Ibn Haritha et Ibn Salama de ne pas le suivre. Et ils vont retourner dans le campement, dans l'armée. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul avec les 300 repartent. Et ces versions historiques, elles nous disent que Abdullah ibn Amr ibn Haram les suit. Et il leur fait des reproches. Il leur dit, honte à vous. Honte à vous. Vous êtes des lâches. Et il leur dit même, أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيا. Qu'Allah vous éloigne. Vous voulez partir? Eh bien, qu'Allah vous éloigne le plus loin possible. On n'a pas besoin de vous. Qu'Allah vous éloigne. Vous n'êtes que des ennemis d'Allah. فسيغني الله عنكم نبيه. Allah va faire en sorte que le professeur Hassan n'a pas besoin de vous. Non. Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu. Comme on a dit, certaines versions historiques disent que c'est le tout premier à tomber en martyr dans la bataille de Uhud. Non. Et son corps sera mutilé par les idolâtres. À un tel point que lorsqu'il va être ramené auprès de sa famille, auprès de son fils Jabir ibn Abdillah et de sa sœur Fatima, il sera recouvert d'un drap pour pas qu'on voit son visage qui a été totalement mutilé. On lui a coupé les oreilles, on lui a coupé le nez, on l'a balafré. Il est méconnaissable. Et donc ils ne veulent pas que ça choque la famille. Et Jabir ibn Abdillah insiste, on l'a expliqué la semaine dernière, il tire le drap. Et les compagnons refusent, ils mettent le drap. Et il insiste, je veux le voir, je sais, vous m'avez dit qu'il a été mutilé, moi je veux le voir quand même. C'est mon père. Et le professeur Salim leur dit, laissez-le. Nous l'avons prévenu, il sait à quoi il doit s'attendre, s'il insiste, laissez-le. Et il va voir son père. Et dans l'assemblée, il y a la sœur qu'on n'avait pas vue. La sœur de Abdullah ibn Amr ibn Haram, quand elle voit son frère, comment il est, comment l'a mutilé, elle se met à pleurer. Et le professeur Salim va la soutenir, la consoler, la soulager, et lui dit, tabkina ou la tabkina. Pleure ou ne pleure pas. Tu peux pleurer si tu veux. Mais ça ne changera jamais une chose. La zal est il malaikatu. Tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tuhu. Les anges n'ont cesse de le recouvrir avec leurs ailes jusqu'à ce qu'on prenne le corps pour l'enterrer. Les anges sont là, ils sont descendus exprès pour lui, pour assister à ses funérailles, pour l'accompagner dans sa janaza. Eh bien, c'est de lui qu'on parle lorsqu'on dit cet homme, non seulement il est déterminé, il veut y aller, alors qu'il laisse derrière lui des filles, il a laissé son testament à son fils, occupe-toi de mes filles, occupe-toi de mes dettes. Et lorsqu'il voit les hypocrites partir, il aurait pu se dire mes filles, mes dettes, ma chakil, retourne à la maison. Non. Non seulement il n'y retourne pas, et en plus de ça, c'est lui qui va contribuer à ce que les deux tribus des Beni Haritha et Beni Salama ne partent pas. Et à ça aussi, Allah Azza wa Jal fait référence dans verset 122 de Ali Imran lorsqu'il dit, à propos de ces deux tribus, il fait référence lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et lorsque, en parlant de cet événement, Allah Azza wa Jal dit, et lorsque deux parties, qui? Les deux tribus. Lorsque deux groupes, وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ أَنْ تَفْشَلَ, lorsque deux groupes ont été sur le point de s'avouer vaincus, de désespérer, hein, de se retirer de l'armée. وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. Et Allah est leur allié à ces gens-là, à ces deux groupes. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que se remettent les croyants. Et ici, on a un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari qui nous dit que justement le fils de Abdullah ibn Amr ibn Haram, le fameux célèbre compagnon Jabir ibn Abdillah, il nous dit quoi dans ce hadith Sahih al-Bukhari ? Hadith authentique. Il nous dit فينا نزلت الآية إذ همت طائفتان أن تفشل والله وليهما الآية فينا نزلت بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول وهو والله وليهما. عجيب. Il nous dit ce verset qu'on vient de citer lorsque les deux parties étaient sur le point de se retirer, de s'avouer vaincus, de devenir lâches. Et Allah était leur allié. Il dit ce verset, il a été révélé à propos de nous. Parce que lui, il appartient à ces deux tribus. Il dit ce verset, il a été révélé à propos de nous, la tribu des Bani Salama et la tribu des Bani Haritha. Et il dit, et vous savez quoi ? Certains peut-être qui se disent, ah, j'aurais préféré ne pas faire partie de ces tribus. Parce qu'Allah, il parle d'eux et il explique le moment où ils ont failli trahir, ils ont failli devenir lâches. Il dit, peut-être que certains peuvent penser comme ça. Eh bien, moi, pas du tout, je suis fier que ce verset ait été révélé pour nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Allah termine ce verset en disant, Wallahu waliyuhuma. Et Allah est leur allié. Je vois comment il prend la chose. Léna, au final, avoir peur, avoir un moment de doute, c'est humain. On n'est pas parfait. C'est normal. On ne peut pas reprocher ça à quelqu'un. Mais ce qui compte, c'est qu'au final, on se reprenne parce qu'on veut être proche d'Allah. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit ici. Ils ont été sur le point d'eux. Mais au final, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'Allah est leur allié. Allah est de leur côté. Et eux, ils sont du côté d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça que Jabir ibn Abdillah prend le verset. Non. Ensuite, avant de terminer cette nuit, il y a deux choses. Le jour se lève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, il se retrouve amputé de 300 hommes de son armée. Il est sorti avec 1000 hommes, il se retrouve avec 700 hommes. Contre une armée de 3000 idolâtres. Déjà que 1000 contre 3000, ça fait 1 contre 3, et là, on est à moins d'un contre 3. Et moins d'un contre 3. À l'intérieur de Médine, ça peut aller, parce qu'on est à l'intérieur des murs, on peut faire des pièges, des embuscades. Mais là, ça va être face à face, tête à tête. Donc c'est vraiment moins d'un contre trois. Et donc le professeur sallam, il nous manque à voir deux choses avant d'arriver à Uhud, qu'il va faire sur ce trajet. La première, c'est qu'il va passer en revue l'armée. Et malgré ce qui vient de se passer, il va renvoyer des compagnons qui pour lui n'ont pas l'âge de combattre. Qui sont ces compagnons que le professeur sallam va renvoyer ? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine, inshallah ta'ala. Et aussi, ce qu'on verra la fois prochaine, inshallah ta'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chercher, puisque le jour se lève, un guide. Il va demander à son armée musulmane un guide qui peut être capable d'amener toute cette armée, 700 hommes, qui, sous les yeux des idolâtres, qui est capable de la ramener jusqu'à Uhud sans être vu par les idolâtres. Normalement, c'est de l'ordre de l'impossible. Sauf qu'un compagnon va se porter volontaire et il va réussir à le faire. Dans quelles circonstances ? Ça, c'est ce qu'on verra aussi la fois prochaine ou la fois d'après. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa fikum barakallahu.